Toi seul, Éternel, toi seul, tu nous donnes la sécurité. Ouais, c'est auprès de toi que nous voulons nous réfugier encore et nous mettre à ton écoute, tout particulièrement dans ce moment où tu t'adresses à nous par ta parole. Ouvre notre intelligence, accorde-nous, Seigneur, de saisir ce que tu veux nous dire ce matin, tout particulièrement à travers ce qu'a préparé aussi Michel, qui a travaillé sur ce texte. Accorde-lui de pouvoir nous enseigner ce matin avec clarté et avec fidélité à ta parole. Oui, Seigneur, nous voulons ouvrir grand nos oreilles, nos cœurs, et recevoir ce que tu veux nous dire. Oui, tu t'adresses à ton peuple en ce moment même, et nous voulons te remercier encore pour ce privilège que nous avons de pouvoir entendre ta voix. Nous te remettons ce moment. Au nom de Jésus. Amen.
Bonjour à tous. J'en profite pour saluer ceux que je n'ai pas vus. Comme l'a dit Philippe, c'est vrai que... Excusez-moi, je me prépare. J'ai mes petites habitudes. Comme l'a dit Philippe, je suis un ancien de sa mort. Donc je me présente, je m'appelle Michel. Donc je suis venu avec mon épouse Tiane. Donc j'ai trois enfants, Bérénice, Baptiste et Victoire, qui sont à l'école du dimanche. Je suis un ancien de sa mort. Il y a beaucoup d'anciennes têtes que je vois, donc c'est super. Et je vois aussi de nouvelles têtes, donc c'est super aussi. Je suis hyper heureux d'être là. Et on sent qu'il y a de l'amour ici, on sent que Dieu agit dans cette église. Et merci aussi pour l'invitation de la part de Philippe. Que dire d'autre ? Je suis actuellement en première année à l'Institut biblique de Nogent, voilà, en temps partiel. Donc, voilà. Si vous pouvez prier pour nous et notre famille aussi par rapport à cette nouvelle situation qui bouleverse un petit peu les choses. Et je vais commencer par prier, si vous voulez bien. Seigneur Dieu, je te remercie pour ce moment, merci pour ce privilège que tu nous accordes de venir à toi. Merci parce que tu es celui qui nous a appelés à venir à toi, Seigneur. Et merci parce que tu nous as permis de répondre à ton appel. Et merci parce que nous pouvons être à ton écoute à chaque moment, Seigneur. Et ce matin, nous voulons nous incliner devant ta parole. Peut-être que dans ta parole, il y a des choses qu'on ne comprend pas, il y a des choses peut-être qu'on n'arrive pas à comprendre, à capter. Mais Seigneur, c'est toi qui ouvres nos cœurs, c'est toi qui nous parles, Seigneur. Et je te prie vraiment qu'au travers de ce message de ce matin, tu puisses ouvrir nos cœurs et que nous puissions ressortir de ce lieu, de ce local, et qu'on puisse propager ta parole, Seigneur, là où nous sommes, à notre entourage. Seigneur, je te remercie aussi pour ce message que tu as mis dans mon cœur, Seigneur. Merci aussi pour tous ces moments de réflexion, ces moments où j'étais avec toi aussi pour préparer ce message, parce que c'est vraiment un privilège, Seigneur. Et Seigneur, je te prie vraiment que je puisse restituer avec fidélité, Seigneur, ce que tu as mis dans mon cœur. Voilà, Seigneur, je suis ton serviteur et je te prie vraiment que tu puisses m'utiliser comme tel, Seigneur. Et je te prie en ton Fils Jésus-Christ. Amen. Merci pour la lecture. Est-ce que vous avez déjà eu du mal à vous endormir? Je ne sais pas si vous le savez, mais les Français sont les plus gros consommateurs de somnifères. Vous savez, c'est cette petite pilule qui vous promet en un instant de vous endormir. Ça ressemble à un produit miracle, mais pourtant, si c'est mal dosé, si la prise est trop fréquente, elle peut facilement nous entraîner vers une dépendance. Et avant d'en arriver à là, il faut creuser le fond du problème, comprendre d'où vient cette insomnie. Qu'est-ce qui nous maintient éveillés? Ce sont les préoccupations. Vous savez, ce sont ces petites choses que nous pensons jour et nuit et que nous nourrissons par nos propres réflexions. Ce sont le genre de pensées qui arrivent lorsque vous êtes dans votre lit, bien installé, vous avez trouvé la bonne position pour vous endormir et hop, tout d'un coup, vous y pensez. Vous y réfléchissez Vous faites des plans dans votre tête et ça continue encore et encore jusqu'à ce que vous vous rendiez compte qu'il est déjà 3 heures du matin. Nos préoccupations peuvent réellement avoir un impact sur notre vie, sur notre santé spirituelle et santé physique. Il me semble qu'en ce moment, on l'a rappelé tout à l'heure, que vous êtes sur une série, sur les psaumes d'ailleurs, et que la semaine dernière, vous avez étudié ensemble le chapitre 3. Et en fait, le chapitre 3 et le chapitre 4 se ressemblent beaucoup dans les thèmes qui sont abordés. Donc il y aura peut-être des choses qui ont déjà été dites dans ce que je vais dire ce matin. Mais ce n'est pas grave parce qu'on dit que pour bien apprendre, il faut au moins l'avoir appris 3 fois. Donc peut-être la semaine prochaine, on va répéter encore. Le psaume 4 est un remède contre l'anxiété. Si vous traversez des épreuves en ce moment même, vous apprendrez des choses importantes pour vous ce matin. Si vous n'avez jamais encore traversé d'épreuves dans votre vie, et ça m'étonnerait, sachez que vous n'y échapperez pas. Et il est temps de vous y préparer dès maintenant. Parce que souvent, dans la détresse, vous n'aurez pas le temps. Vous n'aurez même pas l'envie, peut-être, de vous asseoir et de méditer sur la parole de Dieu. Et ce matin, au lieu de nous inviter à prendre un somnifère, David nous donne sa méthode pour lutter contre les préoccupations. Comment David arrive-t-il à trouver le sommeil alors que ses ennemis rôdent de toutes parts? On va découvrir ensemble le secret de David. Tout d'abord, on va chercher à comprendre l'origine de nos préoccupations. Nous allons voir que ces préoccupations ne viennent pas de nulle part. Ensuite, on va voir qu'il est important pour nous de diriger notre attention, de porter nos regards sur autre chose que nos propres préoccupations. Un petit indice, quelqu'un de très important. Et pour terminer, nous allons voir que nous ne sommes pas seuls dans nos préoccupations et que nous avons un Dieu d'amour qui est là pour nous mettre dans la paix. Alors dans le chapitre 3, vous l'avez vu, on voit que David a un problème. Son problème, c'est qu'il est chassé par son propre fils Absalom qui veut lui ravir sa royauté que Dieu lui a donnée. Et c'est ce qu'on voit tout de suite dans le titre du psaume chapitre 3, dans le verset 1. C'est écrit « Psaume de David » quand il fuyait devant son fils Absalom. Il n'y a pas plus clair. Mais ce n'est pas aussi évident dans le chapitre 4, parce que dans le verset 1, il est dit « Au chef de cœur, un psaume de David a chanté avec un accompagnement d'instruments à cordes. » Alors, ça ne nous renseigne en rien de ce qui se passe. Il n'y a pas de détails dans du contexte de la rédaction du psaume, mais seulement des instructions pour le chanter. Il faut que ça soit accompagné d'instruments à cordes. On ne nous dit pas ce qui se passe dans la vie de David. Mais dans le verset 3, on a un petit indice quand même. On nous apprend que la préoccupation de David dans ce chapitre, c'est que ses ennemis tentent de jeter le discrédit sur son honneur. Certains n'hésitent pas à mentir, propager des rumeurs. En fait, ici, David ne cherche pas à fuir une préoccupation physique, mais plutôt une préoccupation d'ordre moral, psychologique. Et vous, les hommes, jusqu'à quand jeterez-vous le discrédit sur mon honneur? Jusqu'à quand vous plairez-vous à poursuivre le vent et le mensonge? David n'est pas pourchassé. David n'est pas en guerre. Les ennemis ne cherchent pas forcément à le tuer dans ce psaume. Mais il semblerait que l'on complote contre sa royauté et qu'on profère des mensonges pour le discréditer. Et ça, ça le touche. Ça le préoccupe. Alors, on ne sait pas exactement les circonstances. On ne sait pas exactement ce qui se passe. Mais en fait, ce n'est pas grave. Parce qu'en fait, ce qu'on va voir ici ne s'applique pas qu'à une seule situation, mais à n'importe laquelle de nos vies. Et tout comme pour David, nos préoccupations ne viennent pas de nulle part. Peut-être que vous vivez actuellement dans une situation dans laquelle vous êtes confronté. Par exemple, quelqu'un qui ne veut vous pas du bien, que ce soit à l'école, au travail. Peut-être que quelqu'un a proféré des mensonges à votre encontre. Vous subissez un rejet, peut-être, de la part de votre famille, de votre entourage, par rapport à la foi que vous avez prise, par rapport à votre foi et à la direction que vous avez prise en choisissant Christ comme sauveur. Nous pouvons également avoir des problèmes de santé, des soucis financiers, peut-être que vous avez des problèmes au travail, peut-être que vous êtes trop débordé dans votre vie, vous avez trop d'activités, trop de devoirs à faire. Toutes ces choses que nous avons citées, et il y en a un tas d'autres, toutes ces situations peuvent créer en nous un tas de réflexions qui bouillonnent dans notre tête. Et pire, on peut se poser des questions sur nous-mêmes, remettre en cause ce que nous sommes, remettre en question nos actes, et cela génère des préoccupations. Et bien entendu, nous ne sommes pas nous-mêmes exempts de péché. Il nous arrive aussi de faire des erreurs, de commettre des fautes, de blesser, de faire mal. Et par rapport à ça, nous pouvons aussi avoir des sentiments de culpabilité et même d'injustice par rapport à ce qu'on a fait. Tout d'abord, culpabilité, parce que nous reconnaissons nos fautes et nous nous sentons mal. D'injustice, parce que nous sommes persuadés du bien fondé de ce que nous faisons, de nos actions. Nous sommes sûrs d'être dans notre bon droit, mais pourquoi nous sommes condamnés pour ça? Et il est même possible que nous nous mettions en colère à cause de nos préoccupations. Mettez-vous en colère, mais n'allez pas jusqu'à pécher, nous dit le verset 5. Nous pouvons nous mettre en colère face à cette injustice qui nous arrive, ou à quelque chose qui nous préoccupe particulièrement. Nous pouvons, par exemple, nous mettre en colère contre le gouvernement et sa gestion de la nation. Alors, en ce moment, j'ai entendu beaucoup de personnes dire qu'ils sont très en colère par rapport au choix du nouveau Premier ministre, par exemple, qui ne fait pas l'unanimité, qui ne correspond pas au vote des Français. Certains vont même jusqu'à s'interroger sur l'utilité du vote. Et maintenant, c'est le gouvernement sélectionné qui est critiqué de toutes parts. Alors oui, vous avez le droit d'être en colère contre les décisions du gouvernement qui vous ne correspondent pas, tout comme d'être en colère contre les décisions qui peuvent se passer au sein de l'Église, que vous pouvez trouver injustes aussi. La colère est légitime lorsqu'elle est provoquée par une injustice, lorsque la liberté d'expression ou notre conscience est atteinte. La colère, elle peut être bonne ou mauvaise, et ça selon nos motivations et selon leurs objectifs. La bonne colère, c'est celle qui rejette l'injustice, l'immoralité et tout autre péché. Cette colère vient même directement de notre conscience lorsqu'elle est basée sur notre amour pour Dieu et pour les autres. Et dans le verset 5 de notre psaume chapitre 4, c'est bien de ce genre de colère dont il est question. Une colère juste, en accord avec la justice de Dieu. Dans Éphésiens chapitre 4, verset 26 à 27, il est écrit: si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne laissez aucune place au diable. Malheureusement, même la bonne colère, même la colère juste, peut se changer en amertume et doit être mise de côté chaque jour. Sinon, cette amertume progresse et grossit en nous jusqu'à devenir une ouverture pour les œuvres du diable. Dans notre texte, David a le droit d'être en colère. Il subit une injustice, mais sa colère ne doit pas se transformer en péché. La colère ne doit pas se prolonger au risque de devenir une source de préoccupation et une souffrance enracinée qui peut se transformer en péché. Donc vous l'avez vu, la préoccupation de David dans le chapitre, elle vient de l'avidité des hommes. Pour nous, elle trouve sa source dans énormément de situations qui nous entourent et nous atteignent plus ou moins directement. Le péché qui atteint le monde nous touche et crée des préoccupations même de façon indirecte dans nos vies. Est-ce que vous connaissez l'effet papillon? Je ne vous parle pas du film des années 2000. Je veux vous parler de l'effet papillon du péché. On peut, par exemple, prendre l'exemple des lobbyistes, dont leur principale préoccupation, c'est d'engranger le plus d'argent possible, au détriment des agriculteurs, des commerçants, des consommateurs. Et ça donne ce qu'on voit actuellement, par exemple, en Martinique. D'ailleurs, prions pour nos frères et sœurs de la Martinique. Il existe différentes méthodes pour mieux dormir, donc comme les somnifères. Certains aussi vont utiliser l'hypnose pour essayer de déceler leurs désirs les plus profonds. Nous pouvons aussi essayer de faire en sorte de ne plus avoir de préoccupations. Mais tout comme le péché est présent dans ce monde jusqu'à ce que nous en soyons débarrassés, autrement dit, lorsque nous rejoindrons une nouvelle terre et des nouveaux cieux, nos préoccupations seront toujours aussi présentes. Alors je ne dis pas que nous devons rester immobiles devant nos problèmes, nous devons y faire face. Je vais prendre l'exemple d'une grande femme. C'est une femme dans la Bible qui n'est pas très connue. Son nom n'est cité qu'une seule fois. Elle a joué un rôle hyper important dans l'histoire du peuple d'Israël. C'est la maman de Moïse. Est-ce que vous savez comment elle s'appelle? Jochébed. En fait, à ce moment-là, les temps étaient extrêmement difficiles à la naissance de Moïse. Déjà, il y avait l'esclavage par les Égyptiens, et il y a eu deux édits qui sont passés pour exterminer les Juifs petit à petit en passant par les nouveau-nés. Et bébé Moïse était en grave danger de mort. Et on nous dit que c'est par la foi que ses parents l'ont caché aux yeux et à la barbe des Égyptiens. Pendant 3 mois, 3 mois de crainte, mais aussi 3 mois d'espoir. Et vous savez ce que Jochébède a fait au bout de ces 3 mois, lorsqu'elle était à bout, lorsqu'elle ne savait plus quoi faire? Elle a tout simplement décidé de lâcher prise, de faire encore une fois son maximum pour préparer une embarcation pour son enfant, une embarcation qui le sécuriserait. Mais jusqu'où? Ça, elle ne le savait pas. Mais elle dépose tout de même cette barque sur le fleuve du Nil parce qu'elle ne peut plus rien de faire de plus. Elle a fait son maximum. Elle dépose son enfant sur le Nil parce qu'elle fait confiance à Dieu et elle a l'espoir que Dieu trouvera une issue favorable pour son enfant. Et vous savez comme moi que Moïse est devenu par la suite un grand serviteur de Dieu et que c'est par son intermédiaire que le peuple d'Israël a été libéré du joug de l'esclavage. Nous ne pouvons pas ignorer nos préoccupations. Mais ce qui est clair, c'est que d'essayer de résoudre nos problèmes par nous-mêmes, uniquement par nos propres forces, notre propre volonté, accentue les préoccupations qui peuvent alors devenir une souffrance dans nos vies. Mais alors, que devons-nous faire? Jochébède s'est tourné vers Dieu. David s'est tourné vers Dieu. Et nous aussi, nous pouvons nous tourner vers Dieu. Quand je crie, réponds-moi, nous dit le verset 2. Dans la détresse, notre passage nous dit que David crie à Dieu. Et lorsqu'on crie, c'est vraiment parce qu'on est à bout et qu'on a besoin d'aide. Si David crie, ce n'est pas juste parce que Dieu est loin, tout en haut, je ne sais où, hors de portée, et qu'il faut hurler pour espérer que Dieu nous entende. Le but n'est pas de crier le plus fort possible pour que Dieu nous entende. Mais David, il s'adresse à Dieu, pas par un murmure sans conviction ou par un souffle timide. Il ne s'adresse pas à Dieu par simple religion ou en se disant « Ouais, pourquoi pas, on peut essayer », mais par conviction. Il cherche l'attention de Dieu dans sa détresse. Et cela montre cette relation intime entre David et Dieu, mais aussi cette passion dans la conversation avec Dieu. Et à ce moment-là, c'est vraiment tout son cœur, toute son âme qui est portée vers Dieu. Est-ce que vous avez déjà vécu cette situation? Vous savez, cette situation où tout semble s'effondrer autour de vous, que rien ne peut vous retenir de votre chute? C'est vraiment pas une situation confortable. Parce que nous sommes à ce moment-là dans la détresse, dans la souffrance la plus absolue. Mais c'est aussi une bonne chose, parce que nous nous tournons vers Dieu à ce moment-là. Mes enfants ne sont pas des grands pleureurs. En général, quand il se passe quelque chose, ils essayent de trouver la solution par eux-mêmes. Et c'est ce qui nous fait dire à moi et à Sian que lorsqu'il y a des cris, lorsqu'il y a des pleurs, c'est qu'il se passe vraiment quelque chose qui nécessite notre attention. Et si les enfants nous appellent par des cris ou des pleurs, c'est qu'ils s'attendent à ce que nous, parents, on les aide à trouver une solution. Et bien de la même manière, nous prions et nous crions Dieu qui nous écoute. Nos prières sont dirigées vers Dieu et nous savons qu'elles atteignent son destinataire. Et il y a une différence entre la prière du juste et celle de l'injuste. Dieu entend nos prières à nous qui sommes justes et refuse les prières de celui qui est injuste. Mais qu'est-ce qui fait de nous que nous sommes des femmes et des hommes justes? Pas par ce qu'on peut faire, pas par notre condition sociale, pas par notre éducation, notre place à l'Église. Celui qui fait la présidence n'est pas plus juste que celui qui fait l'accueil ou que celui qui place les chaises. Mais le juste, dans notre texte, c'est tout simplement celui qui a soif de la justice de Dieu. Réponds-moi, Dieu de ma justice, crie David dans le verset 2. Celui qui est juste reconnaît la justice de Dieu et cherche sa justice. Nous passons tous par la justice de Dieu et nos prières aussi passent par la justice de Dieu. David pourrait faire justice lui-même. C'est le roi, c'est celui qui a la plus haute autorité. Il a même toute l'autorité sur le royaume que Dieu lui a confié. Il pourrait se rendre justice en faisant condamner ceux qui médisent sur lui, ceux qui mentent, et même les faire exécuter. Mais ce serait se rendre justice. Et au lieu de ça, David s'attend à ce que ça soit la justice de Dieu qui s'applique. Toutes nos prières sont entendues. Mais Dieu ne répond pas selon nos attentes. Pas selon notre justice, mais selon sa justice. Toutes nos prières sont entendues, mais Dieu ne répond pas selon notre temps, mais selon le temps que lui aura décidé. Et c'est de cette manière que nous devons crier à Dieu, en nous attendant à être délivrés selon sa justice et son temps. La réponse de Dieu peut être lente à notre goût. Peut-être que sa réponse ne nous plaît pas, ne correspond pas à ce à quoi on s'attendait. Mais si nous crions à Dieu, si nous cherchons son aide, c'est parce que nous lui faisons confiance. Nous qui avons la foi en Jésus, nous sommes devenus les enfants de Dieu. Et comme des enfants qui crient à leurs parents et qui pleurent, nous crions à Dieu pour qu'il nous vienne en aide d'une manière ou d'une autre. Et vous savez, trois enfants qui crient et qui pleurent cherchent tous les trois un dénouement différent. Pourtant, ce sont les parents qui ont le dernier mot au final. Et souvent, la solution ne plaît à personne. Nous devons faire confiance en Dieu. Faire confiance en sa réponse qu'il nous donne, en ses plans parfaits qui sont pour nous. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, nous dit Romains chapitre 8, verset 28. Alors peut-être que ce n'est pas exactement ce qu'on voulait, mais qui sommes-nous pour mettre en doute les plans parfaits de Dieu? Parfois, nous ne comprenons pas les plans de Dieu. Parfois, nous voulons qu'il agisse tout de suite. Et cela demande de la foi que de faire entièrement confiance à Dieu. En ses plans, alors que nous pourrions agir conformément à nos propres règles et à nos propres plans. Dans le verset 6, il est écrit « Offrez des sacrifices conformes à la justice et confiez-vous en l'Éternel. » Donc on l'a vu, David crie à Dieu, il a soif de la justice de Dieu et nous voyons ici qu'il cherche à plaire à Dieu. Et dans le texte, il est dit que nous devons offrir des sacrifices et nous confier à lui. Offrir des sacrifices et nous confier à lui. En fait, ici, il n'y a pas de priorité, il n'y a pas d'ordre. Les deux mots vont ensemble, sacrifice et confiance. Sûrement que David n'aime pas les événements qui entourent ses préoccupations, sûrement qu'il ne les comprend pas, mais une chose est sûre, c'est qu'il reste confiant dans le Seigneur et a le désir de lui plaire par des sacrifices. Et les sacrifices de justice, dans notre texte, ce sont ces nombreux sacrifices que l'on peut trouver dans l'Ancien Testament, dans les livres de Lévitique, de Nombre, des sacrifices pour plaire à Dieu, des sacrifices pour les péchés, des sacrifices de réparation, etc., etc. Mais contrairement à David, nous vivons actuellement dans le temps de Christ. Nous vivons dans le temps où Jésus est le sacrifice parfait. Nous devons offrir des sacrifices, mais pas à la manière de David. Pas des sacrifices qui ne durent qu'un temps et qu'on doit régulièrement recommencer et renouveler. Nous n'avons plus besoin de présenter notre offrande pour qu'il soit égorgé, répandu sur l'autel et brûlé pour Dieu. Jésus s'est offert une fois pour toutes pour que le sang qui coulait à chacun de nos péchés ne coule plus qu'une seule fois pour toutes. Nous ne pouvons offrir de meilleur sacrifice que celui qu'a fait Jésus. Mais nous pouvons, à notre manière, plaire à Dieu par nos sacrifices en passant par Jésus. C'est ce qui est écrit dans Hébreux chapitre 13, versets 15 à 16. Par Christ, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui reconnaissent publiquement lui appartenir. Et n'oubliez pas de faire le bien et de vous entraider, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Voilà le sacrifice que nous sommes appelés à faire. Offrir des louanges et servir les autres. Voilà les sacrifices auxquels Dieu prend plaisir. Maintenant que nous avons les mains pures et le cœur pur, sanctifiés par le sang de Jésus, Dieu prend plaisir à nos sacrifices de louange et de service. Notre passage de ce matin, c'est tout d'abord un appel à regarder à Dieu plutôt qu'à nos détresses. Chercher sa présence dans nos vies, vivre sa justice et la rechercher, et nos préoccupations deviendront secondaires dans nos vies. Et Dieu sera la priorité. Lorsque rien ne va plus, lorsque tout semble aller pour le pire, lorsque même Dieu semble lointain, rappelons-nous de toujours chercher sa face. Mais nous devons aussi apprendre à lâcher prise pour que Dieu prenne le contrôle de nos vies. Et nous devons aussi apprendre à laisser Dieu nous sauver. Et on peut se rappeler de Pierre qui marche sur l'eau, sur l'invitation de Jésus. C'est vraiment un moment extraordinaire, que c'est un miracle de pouvoir marcher sur l'eau, même si ça a duré que quelques secondes ou quelques minutes, on ne sait pas. Mais il y a une chose encore plus incroyable encore, c'est que Pierre, lorsqu'il commence à couler, Jésus va lui offrir son aide et le tire de sa détresse. Et de la même manière, Jésus se préoccupe de nous et nous tire de notre détresse. Alors nous avons vu que Dieu entend nos prières, et maintenant nous allons voir qu'il ne fait pas la sourde oreille. Et c'est aussi la conclusion de notre psaume de ce matin. Là où veut en venir David lorsqu'il écrit ces mots dans le psaume chapitre 4, c'est que notre Dieu, en plus de nous entendre, est un Dieu qui agit, et qui agit largement pour notre bien. Dieu est la source de notre bonheur, du véritable bonheur. Dans les versets 7 et 8, il y a une comparaison entre David et ses ennemis, une comparaison entre les sceptiques et ceux qui ont soif de Dieu. Alors tout d'abord, les sceptiques disent « Qui nous fera voir le bonheur ?» Et les enfants de Dieu disent « Tu mets dans mon cœur plus de joie qu'ils n'en éprouvent quand abondent leur blé, leur vin et leur huile. » Et en fait, David utilise, je pense que vous l'avez compris, comme exemple la moisson, l'agriculture, pour comparer la source du bonheur du sceptique et celui du fidèle. Je ne sais pas si vous êtes habitué du domaine de l'agriculture. Moi, ce n'est pas mon truc. Moi, c'est plutôt l'informatique. Mais je sais que c'est un travail pénible. C'est très, très dur. Il faut labourer, il faut semer, il faut attendre, patiemment, très patiemment. Il faut prendre soin des premiers plants, parfois il faut repiquer. Il faut labourer encore, attendre encore, espérer que l'eau soit en quantité suffisante pour arroser. Et arrive enfin le jour de la moisson. C'est un jour de fierté et de fête lorsque les fruits sont récoltés et qu'avec ces fruits, les granges se remplissent. Personnellement, quand j'arrive à faire survivre mes plantes à la maison, j'en suis déjà tout bouleversé, tout ému. Alors pour un agriculteur dont le travail est toute sa vie, passe par la réussite de sa récolte, on peut facilement imaginer que c'est ça qui fait toute sa joie. Ce qui fait la joie des ennemis de David, ce sont leurs récoltes, leurs butins de guerre peut-être, leur fortune personnelle, le nombre de serviteurs qu'ils ont, peut-être le nombre de chameaux qu'ils ont dans leur cheptel, ou même le nombre de serviteurs qui s'occupent de leurs chameaux. Eh bien, Dieu nous donne bien plus que ça. À celui qui est fidèle, Dieu promet plus de joie que tout ça. Et vous, qu'est-ce qui fait votre joie ce matin? On en parle souvent depuis ces dernières années, ces mauvaises récoltes à cause des températures, du manque d'eau, ou la chaleur qui arrive trop tôt en début d'année. Imaginez le stress permanent pour ces agriculteurs. Toutes ces préoccupations, toute cette anxiété qui s'accumule d'année en année. Mais imaginez que quelqu'un arrive et leur dise « Ne vous inquiétez pas, vous savez toutes ces récoltes que vous perdez, bah, notre assurance les prendra en charge et vous les remboursera jusqu'à 1000 fois la valeur des pertes. » Ce ne serait pas merveilleux? Fini les tracas, fini les insomnies, fini les somnifères. Eh bien, je dois vous dire que c'est un peu ce qui est décrit ici dans notre texte, mais en beaucoup mieux. Dieu nous donne plus de joie et de bonheur et de félicité que toutes les choses que nous espérons dans la vie et que nous pouvons être amenés à avoir sur cette terre. Pourquoi se faire tant de soucis alors que Dieu promet 1000 milliards de fois plus? Et ça, peu importe ce que nous vivons. Notre joie ne dépend pas de notre réussite, ne dépend pas de ce qu'on peut faire, de ce qu'on peut obtenir ou perdre, mais elle dépend uniquement de la grâce que Dieu nous donne. Et le vrai bonheur ne se trouve qu'en Dieu. Et ce bonheur est pour ceux qui croient en lui. Ce bonheur, cette joie indescriptible, est pour ceux qui cherchent sa présence. Le bonheur en Dieu, c'est en fait l'extension de notre désir le plus profond de chercher sa face, par la prière, par des sacrifices, par la soif de justice. Ce bonheur est pour ceux qui mettent leurs préoccupations non pas dans les choses du monde, mais si je peux le dire, dans les choses de Dieu. Et ça, c'est rendu uniquement possible par ce que Jésus a fait sur la croix. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Conformément à sa grande bonté, il nous a fait naître de nouveau à travers la résurrection de Jésus-Christ pour une espérance vivante, pour un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se souiller, ni perdre son éclat. Il vous est réservé à vous dans le ciel, qui êtes gardés par la puissance de Dieu au moyen de la foi, pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est ça qui fait votre joie, même si maintenant, puisqu'il le faut, vous êtes pour un peu de temps attristés par diverses épreuves. Ainsi, la valeur éprouvée de votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or qui est périssable et que l'on soumet pourtant à l'épreuve du feu, aura pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus apparaîtra. Vous l'aimez sans l'avoir vu. Vous croyez en lui sans le voir encore. Et vous vous réjouissez d'une joie indescriptible et glorieuse parce que vous obtenez le salut de votre âme pour le prix de votre foi. Dans 1 Pierre chapitre 1. Pierre, ici, nous décrit la grandeur de la bonté de Dieu qui nous a fait miséricorde par Jésus-Christ. Par sa mort et sa résurrection, nous devons aujourd'hui co-héritier d'un héritage qui ne peut être altéré par quoi que ce soit, parce que gardé par la main même de Dieu. Et ce n'est donc pas une simple espérance que nous avons, mais une espérance assurée par Dieu lui-même. Et nous pouvons réjouir de notre salut, même dans la plus profonde des détresses, parce que la joie que nous avons, c'est la démonstration de notre véritable assurance. Quand vous venez à embrasser Christ, à connaître, à reconnaître les bénédictions qui se trouvent en lui, la joie est si immense que vous pouvez trouver de la joie dans toutes les circonstances de votre vie, peu importe à quel point elles sont mauvaises, au point où même les mots de Job chapitre 1 verset 21 deviennent vos propres mots. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Que le nom de l'Éternel soit béni. Et nous parlons ici d'une joie véritable, d'une joie sincère, d'une joie profonde, donnée par notre Seigneur, le Seigneur de l'univers, et qui défie toute explication logique. Alors c'est facile, le monde comprend facilement la joie quand la fortune sourit, quand tout va bien. Mais le monde ne peut pas comprendre David en fuite, calomnié, opposé, trouvant plus de joie que ceux qui profitent de la moisson, même lorsque Dieu ne répond pas à ses prières. Alors, je ne sais pas où est-ce que vous en êtes dans votre vie. Est-ce que vous êtes chrétien, pas chrétien? Est-ce que vous êtes en recherche? Peut-être que vous êtes là par hasard, vous avez vu de la lumière, vous êtes rentré. Bienvenue. Mais je dois vous dire que nous vivons tous des préoccupations. Et que les préoccupations seront toujours présentes dans nos vies. Mais pensez à ça. Pourquoi avons-nous des préoccupations? Parce que nous avons des besoins. Et elles peuvent être de différentes natures. Elles peuvent être matérielles, émotionnelles, physiques, psychiques même. Nous aurons toujours des besoins, mais des soucis aussi, et des épreuves. Oui, même ceux qui sont disciples de Christ ont des moments de détresse. Dans Matthieu, chapitre 6, il y a ce fameux discours du sermon sur la montagne de Jésus qui finit par « à chaque jour finit sa peine ». Jésus nous dit que celui qui est fidèle ne fait pas de ses préoccupations une priorité de vie. Le fidèle sait qu'il a des besoins, mais il sait aussi que Dieu pourvoit. Et si Dieu pourvoit pour le manger et le boire, il est aussi puissant pour pourvoir à nos souffrances. S'il pourvoit à nos besoins physiques, il est aussi puissant pour pourvoir à nos besoins spirituels. Cherchez sa face, cherchez sa présence et ce qu'il y a de plus important, parce que Dieu est fidèle et il est celui qui nous délivre. Alors effectivement, peut-être pas comme nous l'entendons, mais assurément, le désir le plus profond de Dieu est notre bien. Ayons aussi en vue que Jésus nous a déjà délivrés, et que nos préoccupations, tout comme notre passage sur terre, ne sont que temporaires. Voici ce que nous dit 2 Corinthiens chapitre 4, versets 16 à 18. Voilà pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre être extérieur se détruit, notre être intérieur se renouvelle de jour en jour. En effet, nos légères difficultés du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Ainsi, nous ne regardons pas à ce qui est visible, mais à ce qui est invisible, car les réalités visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Regardons en l'espérance que Jésus nous donne. Regardons à ce qui se présente à nous par la foi. Notre détresse, nos préoccupations de vie ne sont que légèreté, ne sont que vapeur par rapport à la gloire éternelle que nous avons en Jésus-Christ. Nos souffrances ne sont pas insignifiantes, mais nous avons comme défi chaque jour de regarder à Dieu, à lui rester fidèle, quels que soient les événements que nous traversons. Tout comme David, avec ses multiples défis, nous pouvons alors nous endormir en paix, dans la confiance que Dieu est notre protecteur. Et vous savez, avoir Dieu comme protecteur, je pense que c'est bien mieux que toutes sortes de bunkers. Vous avez déjà vu un bébé qui dort ? Je pense que David est au courant. Ce bébé, comment il dort ? Il dort à point fermé en général, pas parce qu'il est en colère. Il dort paisiblement et il sourit. Pourquoi ? Parce qu'il n'a aucun souci dans sa vie. Il a des besoins, mais ses besoins sont comblés de la meilleure des manières possibles par ses parents. Le manger, le boire, l'affection, l'amour, le soin, l'attention, les parents arrivent à combler le moindre des désirs de ce bébé. Et notre Papa Céleste fait de même avec nous. Il est celui qui comble nos désirs les plus profonds. Alors, je ne vous parle pas de combler ce besoin en technologie que vous avez, d'avoir ce magnifique téléphone qui se plie en trois. Mais Dieu nous comble. Il comble ce désir de réconciliation avec lui. Nous avons chacun en nous intimement un vide qui ne peut être rempli que par Dieu. Et aujourd'hui, peut-être il frappe à ta porte pour entrer dans ta vie. Laisse-le entrer pour connaître le bonheur le plus grand qu'il soit. Si on revient un peu sur le sermon sur la montagne, Jésus dit la chose suivante aussi. Cherchez d'abord le royaume de Dieu, et tout cela vous sera donné en plus. Tout cela, ce sont nos besoins. Dieu nous promet que nous n'aurons plus à nous soucier de tout ça, ni de nos préoccupations. Mais à quel moment au juste est-ce que Dieu pourvoit ? C'est lorsqu'on cherche le royaume de Dieu. Autrement dit, lorsque nous cherchons Dieu par nos prières, par notre soif de sa justice et notre envie de lui plaire. Et cette satisfaction infinie qui nous est promise en Jésus-Christ, nous l'avons qu'en Jésus. Et nous ne pouvons venir à Dieu qu'en Jésus. Si Dieu n'est pas dans ta vie, si tu refuses de le laisser entrer, il ne pourra pas te combler de ses bienfaits. Si tu meurs de soif et qu'on te serve à boire et que tu refuses de boire, tu ne pourras pas étancher ta soif que ton corps te réclame. Et Jésus est cette eau qui étanche ta soif. Dans Marc chapitre 4, Jésus était dans une tempête avec ses disciples. Juste avant, il va donner une série de paraboles qui parlent sur comment Dieu agit en tout temps, comment est-ce que le règne de Dieu grandit encore et encore et nous donne plus d'espérance pour les temps à venir. Encore avant, Jésus fait des miracles, il rencontre la foule, il reçoit ses premières critiques, et il savait qu'il y avait des souffrances à venir, qui allaient venir, même jusqu'à la croix. Et on comprend qu'il soit fatigué. Peut-être qu'il appréhende même cette souffrance à venir. Mais sans doute, comme David, il est fatigué, il est couché là, sur le bateau, à l'arrière du bateau, il s'est confié à Dieu, peut-être qu'il a trouvé la bonne position pour s'endormir. Il a médité sur ses pensées, il s'est endormi dans la paix et la confiance. Il s'endort, pas en s'imaginant que ses préoccupations seront balayées, qu'il ne s'offrira pas, qu'il n'ira pas sur cette croix, mais il s'endort dans la paix et dans la joie, en faisant confiance à la justice de Dieu, que ses plans sont bons et parfaits pour l'humanité. Dans le verset 9, Je me couche et je m'endors en paix. Car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Je vous invite à prier. Seigneur Dieu, je te remercie pour ce moment, Seigneur, pour ce texte que tu as mis dans notre cœur, Seigneur. Je te prie vraiment que nous puissions réfléchir à tout ça, Seigneur. À comment est-ce que nous nous présentons à toi? À comment est-ce que nous venons prier à toi, Seigneur? Seigneur, nous savons que nous passerons tous par des préoccupations, par des soucis, par des souffrances, par des moments de détresse. Mais nous savons aussi et nous avons la conviction que Dieu, toi, tu nous délivres. Tu es celui qui pourvoit à nos besoins, Seigneur. Alors effectivement, peut-être pas comme nous l'entendions, mais nous avons confiance en ce que tes plans sont parfaits pour nous, en ce que tu veux notre bien, Seigneur. Seigneur, je te prie vraiment que tu puisses nous aider à méditer sur ces paroles, Seigneur, que nous puissions rechercher avant tout ta face, Seigneur, lorsque tout va mal, lorsque nous sommes dans la détresse la plus absolue. Seigneur, tu connais nos besoins, tu sais ce qui nous préoccupe, tu les sais d'avance avant qu'on te les exprime. Mais Seigneur, nous savons aussi que tu nous entends à chaque moment. Entends nos cris, Seigneur. Entends nos cris de détresse, nos cris de souffrance. Et réponds-nous, Seigneur. Voilà, Seigneur, je te prie vraiment que tu puisses être avec chacun d'entre nous ce matin et je te prie en ton Fils Jésus-Christ. Amen.